Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Quels sont les facteurs qui ont contribué à l'augmentation du taux de réussite à l'examen d'État pour la ville province de Kinshasa? On en parle aujourd'hui avec Serge Bondedi, secrétaire général de l'ONG IMAE. Serge Bondedi, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Vous avez des questions et préoccupations, écrivez-nous à service@radiookapi.net. Postez également vos préoccupations sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Paul Badianyama à la mise en onde, Tati Mapoukou assure la réalisation, Marcel Ngombo à la coordination, au micro Jody Daniel Keshama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Quels sont les facteurs qui ont contribué à l'augmentation du taux de réussite à l'examen d'État édition 2019-2020 pour la ville de Kinshasa? Eh bien, retenons d'abord que la publication des résultats de l'examen d'État édition 2019-2020 pour Kinshasa a débuté le dimanche 27 septembre. Les scènes de liesse sont perceptibles à travers la ville, sifflets, cris de joie, klaxons des voitures et des taxis-motos, la poudre sur la tête. Les diplômés courent dans tous les sens pour manifester leur joie. Le taux de réussite est en hausse de 6% par rapport à l'année passée. Donc, c'est passé de 72 à 78%. Quels sont les facteurs qui ont contribué à cette augmentation du taux de réussite? Le ministre de l'EPST a parlé de la classe télévisée, qui est l'un des facteurs principaux qui a permis de booster les résultats. Eh bien, nous allons en savoir plus avec nos invités. Serge Bondedi, je vous ai annoncé tout à l'heure, vous êtes coordonnateur de la campagne Ecoleza Mbongote et secrétaire général de l'ONG Young Men Association for Education. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, Monsieur Jody.
Alors, les résultats de l'examen d'État édition 2019-2020 ont été publiés hier pour la ville, ce dimanche 27 septembre, pour la ville province de Kinshasa. On a vu des liesses, des scènes un peu partout à travers la ville. Alors, le taux de réussite est de 6%. Serge, d'après vous, qu'est-ce qui a contribué à cette augmentation du taux de réussite?
Oui, merci pour la question. Il faut noter, et d'abord je vous félicite pour vous avoir une fois de plus penché sur cette question d'importance cruciale, et la publication de résultats qu'il faut noter, qui est partielle, comme à l'accoutumée lorsque nous voyons la CENI quand elle publie le résultat qui souffre très souvent de tergiversations. Nous voici aussi pour l'examen d'État, la publication devient partielle, progressive, et cela contribue à troubler la quiétude des enfants qui ne savent pas les autres à quand est-ce que leur tour interviendra. C'est quand même de fait des dysfonctionnements qui n'honorent pas le système éducatif congolais. Qu'est-ce qui justifie cette augmentation vertigineuse du taux de résultat? Mais ce n'est pas à fouiner sous les roches. C'est clair et simple. C'est parce que l'examen ou les épreuves de l'examen d'État en soi ne constituent plus une maille pour filtrer le meilleur, les excellents, l'élite que la société congolaise doit avoir. L'examen d'État est devenu un fourre-tout où vous avez même des enfants qui ne savent ni lire ni écrire, mais qui curieusement obtiennent le diplôme d'État. Donc, il y a d'abord le premier facteur qui est celui de la fraude et la tricherie qui est organisée et planifiée, ce qui fait qu'il n'y a plus de mailles. Tout le monde entre et sort avec son passé. Il y a également le facteur politique. Avant la publication des résultats de l'examen d'État, il se tient chaque année la célèbre séance de délibération où il n'y a techniquement aucune option scientifique qui est levée si ce n'est que de répondre aux besoins politiques. Parce que au cours de cette réunion, on s'est dit, si il n'y a pas assez de résultats, nous allons causer du problème à l'électorat, soit du chef de l'État, soit du ministre. Voilà ces deux facteurs. Et l'autre qui intervient, c'est la prise en charge de la gouvernance de l'examen d'État en soi. Je vous annonce que des correcteurs n'ont pas touché suffisamment le frais de leur prise en charge. Le surveillant également, jusqu'à ce jour, à moins que ma mémoire puisse me trahir ou qu'il y ait une information contraire, souffre aussi de prise en charge. Tous ces éléments mis en moule contribuent efficacement à cette augmentation vertigineuse du taux de résultat ou de réussite de l'examen d'État sans que les lauréats soient à mesure de défendre valablement ses diplômes. Et ce qui fait que lorsqu'ils sont à l'étranger, ils sont carrément recalés ou soit méconnus.
Bien, ben, voilà alors, Serge,
un peu la situation.
Oui, d'après Serge, ce qui a contribué à l'augmentation du taux de réussite, d'après vous, c'est la tricherie, la fraude et puis l'implication politique. On va accueillir des auditeurs, Pamphile de Kindou et Alain Évariste de Mbandaka. Pamphile, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Bien, nous parlons des facteurs qui ont contribué à l'augmentation du taux de réussite à l'examen d'État, édition 2019-2020, oui, pour la ville, province de Kinshasa. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus?
Oui. Merci, monsieur le journaliste. Moi, je ne partage pas le même avis avec les ministres, disant que en suivant les enseignements télévisés à la RTNC, c'est le seul facteur qui a permis à qu'il y ait un pourcentage élevé de la réussite. Pourquoi? Parce que si nous faisons d'abord les statistiques, il y a combien de maisons, combien de familles qui suivent la télévision régulièrement? Toutes ces familles-là suivent la télévision et les enfants ont vraiment le temps de suivre ces enseignements. Et si cet enseignement à travers la télévision est-elle participatif? C'est pourquoi moi, selon moi, mon avis, peut-être le gouvernement a utilisé une autre pratique qui a permis qui est un peu le taux élevé de la réussite. Mais dire que ce sont les enseignements télévisés qui ont permis que ce taux soit élevé de la réussite, vraiment, monsieur le journaliste, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que même les années où les enfants suivent régulièrement les cours dans des classes avec des enseignants où ils ont la probabilité de poser la question même à 4-5 fois dans la salle, il n'y a pas le taux élevé de la réussite. Mais pourquoi seulement un enseignement à distance? D'abord, les enfants ne sont pas habitués à ça. Ils peuvent réussir beaucoup. Vraiment, monsieur le journaliste, peut-être le gouvernement peut nous dire de ces pratiques qu'ils ont utilisées pour que les taux de naissance soient élevés.
Samuel Kasanga, qui vous êtes à Bounia, bonjour.
Bonjour de la radio Capi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport bien Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux résultats de l'examen d'État édition 2019-2020?
À ce qui concerne ce sujet, je l'ai lu, mais le ministre n'a pas le droit de penser de dire que c'est grâce à la radio RTLC qui a fait ces résultats, soit la réussite, le taux de la réussite.
Oui.
À cela, j'ai trouvé cette réussite était dans beaucoup d'écoles sérieuses. Ils avaient fait tout de terminer leur programme avant le temps, avant le confinement. Mais aussi, beaucoup d'apprenants conscients faisaient toujours lire, ces apprenants lisaient toujours leurs documents, soit leur manuel dans des maisons, soit dans d'autres lieux. Allô?
Oui, allô, quelle est la question que vous adressez à l'invité?
À l'invité, je devrais lui poser la question d'attendre peut-être. À l'invité, je devrais lui poser la question d'attendre les résultats terminales. Si on proclame toutes les provinces de la RDC, vous devriez voir si réellement la radio, soit l'enseignement à distance, a contribué. Et de ma part, l'enseignement à distance a moins contribué pour la réussite de cette année.
Bien, merci. Serge Bondedi, vous avez suivi les préoccupations ou les avis des auditeurs. À vous la parole.
Oui, les auditeurs ont effectivement raison parce que la justification faite par l'autorité de tutelle, le ministre, en épinglant la classe télévisée qui aurait contribué à la performance des enfants n'est que farfelu. Pourquoi? Parce que de un, comme le premier auditeur a dit, dès lors que le pays souffre de taux de couverture en électricité, alors que ce sont tous les enfants sur l'étendue du territoire national qui ont présenté l'examen d'État, c'est paradoxal. Donc déjà, ça ne tient pas debout. Deuxièmement, en termes même de la grille horaire de cette classe filmée, parce que ce n'était même pas, s'il faut dire, réellement la classe télévisée, mais c'est une classe filmée. Mais quelles sont les filières qui ont effectivement bénéficié de cette classe télévisée? Parce que l'examen d'État concerne toutes les filières de l'enseignement national. Et au-delà de filières qui ont été dont les enseignements ont été filmés, les classes de quel niveau de ces filières qui ont été filmées? Donc, dire que c'est la classe télévisée, je crois que venant du ministère en charge de l'éducation, ce n'est pas pour respecter la moralité publique. Il y a la fraude qui a contribué. Je peux vous dire que nous venons de sortir, alors qu'il y avait l'examen d'État, nous, comme société civile, on avait initié la première expérience d'une mission d'observation et de monitoring citoyenne de l'examen d'État. Mais les choses dont on a été en face sont d'extrême gravité. Je vous cite à titre d'exemple le E13 qui est envoyé au ministère. Ce sont des chefs d'établissement eux-mêmes qui ont proposé et de commun accord avec les inspecteurs, avec l'aide de la corruption, on a mis de point voulu par le chef d'établissement. Et l'inspecteur ne faisait que recevoir, voire même s'il faut modifier, c'est pour ramener à la hausse le point. De même manière, le point de jury professionnel, ce sont le chef d'établissement qui proposait aux inspecteurs. Aucun point est venu sur base des évaluations qui ont été faites. Donc la tricherie à un niveau vraiment assez dramatique. Vous avez la passation pendant les 4 jours. Tous ces lauréats qu'on a publiés hier, tous pour la plupart, savent qu'ils ont mobilisé, qu'ils ont cotisé pour soudoyer les surveillants dans des salles de passation. Les enfants étaient obligés d'apporter 10 000 francs chaque jour, ou 4 000 francs, ou 5 000 francs, pour contre le surveillant.
Serge Bondedi, pour cette édition, il semble qu'il y a eu quand même, la surveillance était renforcée, les tricheurs n'ont pas pu fonctionner.
Nous avons diligenté la mission d'observation. Je vous cite, si le ministère dit qu'il y a eu renforcement des dispositifs sécuritaires ou disciplinaires, le centre Monseigneur Bokele Ale, le chef de centre peut témoigner. J'étais là sans qu'il sache que j'étais là. C'est à 11h que, personnellement, j'ai vu deux enfants en train d'accéder dans le centre de passation de l'examen d'État. Une fille à moitié dévêtue et un garçon. À 11h, je vous dis, monsieur le journaliste, et je vous cite le centre, ce n'est pas de moindre, que Monseigneur Bokele Lissanga, à 11h, une fille dévêtue, à moitié nue, qui accède au centre de l'examen d'État, et dans la pratique, dans le monitoring, les enfants qui accèdent très tard au centre, ce sont eux-là qui apportent des fuites. Ce sont eux-là qui apportent les éléments de réponse. Il y a beaucoup de centres que je peux vous citer à Kinshasa, que nous avons découvert à travers notre mission d'observation, où les fuites ont valablement fonctionné. Les enfants ont utilisé des WhatsApp. Il y a eu même de ces parents qui nous ont dit, si dans l'absurdité on pouvait même plaider pour que pendant les 4 jours du déroulement de l'examen d'État, qu'on puisse interrompre la fourniture de l'Internet, parce que ce qui s'est passé cette année, c'est du jamais vu. Bien que la fraude et la tricherie caractérise l'examen d'État en République démocratique du Congo, mais cette édition était plus pire. Les écoles ont eu le fuite bien avant, beaucoup ici à Kinshasa, et les enfants ont eu des résultats ou les réponses à travers les réseaux sociaux, dont WhatsApp.
Serge Bondedi, est-ce que vous avez les preuves de ce que vous affirmez?
Nous avons fait la mission d'observation et de monitoring citoyen de l'examen d'État. C'était la première édition de cette mission qui fait partie des recommandations de notre étude, de notre mission d'enquête sur les cas de tricherie et de fraude pendant l'examen d'État. Je vous cite d'autres écoles ici à Kinshasa, à Pompage, où le surveillant était d'une même famille biologique. Et ces surveillants, pour la plupart, provenaient de partis politiques. Je vous cite le PPRD et l'UDPS qui ont pompé des surveillants, qui ont été recommandés de mobiliser des partis politiques, des sympathisants des partis politiques. Je vous cite l'UDPS et le PPRD qui sont venus que pour faire bomber les poches. Aucun souci des enfants, aucun souci de l'apprentissage des enfants. Voilà un peu ce qui s'est passé, et c'est ça en fait. Donc nous disons des choses à connaissance des causes, nous disons des choses par rapport à ce que nous avons vu. Je vous cite le centre Ngaliem à 14.
D'accord. D'accord.
Trois membres d'une même famille.
Oui, Serge Bondedi, vous avez une mission d'observation des examens qui était sur terrain. Donc, vous affirmez que cette année, la tricherie était au top. Je reviens à vous tout à l'heure, le temps d'accueillir deux auditeurs, John Mukanya de Kananga et Clément de Kinshasa. John, bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux résultats de l'examen d'État édition 2019-2020?
selon mon commentaire que j'avais posé sur les Facebook, je sais que ici à Kananga, on a tout vu. Ce sont les inspecteurs de l'État et les inspecteurs de la mer qui sont bien corrompus. Vous voyez que on s'attendait à quelque chose dans l'état de droit, mais la tricherie maintenant est pire que qu'auparavant. Je vous assure, ici, dans beaucoup de centres, je vous cite les centres pilotes ici, surtout au Collège de Saint-Louis et à l'Institut pilote de Padianzambi, je vous assure que on a tout vu. Ce sont les élèves qui entrent avec les téléphones dans des centres des examens d'État. Monsieur le journaliste, je vous dis, tous les intuitions des surveillants et les chefs des centres, on ne comprend pas. On ne comprend pas. On croyait qu'on devrait former au moins une élite. Moi, je suis enseignant. Je suis professeur au collège Saint-Célestin à Touboulou. Mais ce que moi j'ai déploré ici, c'est la manière dont on commence maintenant à tricher. C'est les WhatsApp et les Facebook maintenant qui sont au top.
Donc, vous voulez dire que, M. John, les élèves transmettaient les informations via, disons, les réponses via WhatsApp et Facebook?
Y compris les messages aussi, à travers les textos.
Textos, oui.
Ils écrivent les questionnaires, ils les envoient à l'extérieur, ils filment les carnets, ils les envoient à l'extérieur, les enseignants répondent à leur place. Vraiment, je vous assure que c'est déplorable. C'est pourquoi moi, je vous ai dit que les diplômes cette année, ce sont des diplômes, je peux dire, à 95% sans valeur. Il y a beaucoup de chômeurs, mais parmi eux, il n'y a pas de tête comme on formait auparavant.
Bien, merci John Moukanya qui nous dit qu'il y a eu une tricherie à grande échelle grâce à Facebook et WhatsApp là-bas à Kananga. Clément, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
Voilà, nous parlons de la hausse du taux de réussite à l'examen d'État édition 2019-2020 pour la ville-province de Kinshasa. Les résultats sont déjà publiés, sont en cours de publication. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cela?
Oui, alors, je par rapport d'abord à tous ces résultats, bon, nous déplorons. Pour moi, j'ai dit, selon mon message sur Facebook, j'ai dit que il faudrait peut-être parler de la récupération qui était très favorable à ces élèves pour qu'on arrive à tous ces bons résultats au niveau de Kinshasa, parce que avoir les enfants qui ont eu comme matière, non, c'est un peu difficile parce que je suis d'abord chef d'établissement, je suis préfet des études dans une école, et à chaque sortie des enfants des examens, on demandait ce qu'ils ont eu, sont les chapitres, les tout derniers chapitres presque. Alors, les enfants n'ont pas pu, même si on doit parler des enseignements en ligne, et tout le monde n'était pas curieux, ou tout le monde ne se donnait pas à suivre tous ces enseignements-là. Donc, pour moi, je dis que peut-être au niveau du ministère, la délibération était très favorable, connaissant un peu le contexte de l'heure, le Covid-19, c'est tout ce que moi je peux dire.
Oui, Clément, vous voulez dire que vous avez dit que vous êtes promoteur d'école ou enseignant?
Non, je suis préfet des études.
Ah, vous êtes préfet des études. Vous affirmez que les enfants ne se sont pas très bien préparés à affronter ces examens à cause de la Covid-19.
Non. Ils ne se sont pas bien préparés, les enfants. Ils ne se sont pas bien préparés. Et par rapport à tous ces bons résultats au niveau de Kinshasa, non, je dirais que, comme ce que j'ai dit là, je répète encore, pour moi, bon, je ne sais pas trop confirmer, si on arrive là, à ces beaux résultats, c'est la délibération, parce que après là, nous apprenons qu'il y a toujours délibération au niveau du ministère, de l'inspection. Il y a toujours délibération. Peut-être que ça a été très favorable pour sauver ces enfants, pour qu'ils arrivent à tous ces beaux résultats.
Merci. Quels sont les facteurs qui ont contribué à l'augmentation du taux de réussite à l'examen d'État édition 2019-2020? Des questions et préoccupations, appelez-nous. Non, n'appelez pas, écrivez-nous plutôt à service@radiocapi.net. Serge Bondedi, qu'est-ce que vous dites? Quelle est votre réaction par rapport à ce que vient de dire Clément Deloukoula, qui est préfet d'une école?
Je crois que il a tout dit. Et venant du chef d'établissement, vraiment je note cela avec beaucoup d'intérêt, et car ça balaye l'argumentaire ou la raison avancée par le ministre. Vous savez, c'est quand même désolant lorsque nous continuons à utiliser l'examen d'État pour de fins politiques ou électoralistes, parce que nous contribuons à la destruction du devenir et de l'avenir de nos enfants, et par ricochet, ça affecte le développement social et économique.
Serge Bondedi, permettez-moi d'accueillir Jean-Baptiste qui est de nouveau en ligne depuis Kisangani. Bonjour.
Bonjour à tous.
On vous écoute, Jean-Baptiste.
D'accord. Nous ne partageons pas du tout le même point de vue avec Monsieur le ministre. L'enseignement, du coup, quand j'ai attendu cette expression de la part de notre ministre de l'enseignement, du coup, je n'étais pas d'accord. Certes, le programme à la télévision de l'enseignement a été sanitaire, dans la mesure où il a été pour quitter les élèves pendant le confinement. En revanche, ces programmes de l'enseignement à la télévision n'a pas du tout répondu à la promotion de la réussite pour cette année, d'autant plus que certains milliers n'ont pas eu accès à cet enseignement, parce qu'il faut le rappeler que la chaîne nationale ne couvre pas totalement l'étendue du territoire national. Ça, c'est une évidence quand même. Et donc, la deuxième raison, nous nous sommes rendus compte que ce programme de l'enseignement n'est pas un programme adapté à la culture de nos enfants. Et c'est-à-dire que nos élèves aiment cette culture traditionnelle de l'enseignement pour mieux comprendre les choses. Ils aiment voir l'enseignant devant eux pour un peu leur expliciter d'autres choses. Et du coup, nos enfants n'ont pas cette culture-là de se mettre près de la radio, suivre la radio avec attention, suivre la télévision avec attention. Peut-être dans des grandes villes, mais dans des milieux intérieurs, c'est extrêmement impossible, difficile même, pour ne pas dire peut-être impossible. Et du coup, je crois que dire que ce programme a participé à la réussite des élèves, je trouve que c'est un prétexte tout simplement, peut-être aussi une parole politique pour adoucir les choses, franchement. Du coup, voilà un peu, en quelque sorte, la façon dont j'ai repris la parole du ministre de l'enseignement.
Bien, merci Jean-Baptiste de Kisangani. Serge Bondedi, à vous la parole.
Ah oui, voilà, c'est quand même honteux de constater qu'au niveau gouvernemental, on veut faire avaler à la population des inepties. Vraiment, c'est assez regrettable. Il faut faire avancer le système éducatif. Comme je vous ai dit au début, que la classe télévisée, bien que ça a contribué à occuper les enfants, mais ça n'a presque rien eu de résultat pédagogique, parce que il y a beaucoup d'aspects techniques qui n'étaient pas pris en compte dans ces systèmes des apprentissages. Car du point de vue contenu, j'informe aux auditeurs que lors de l'examen d'État, on compte au moins 48 filières de l'enseignement général, normal, technique et professionnel. Et
oui, Serge, et il faut noter qu'il y a eu au moins 154 000 participants seulement pour la ville-province de Kinshasa.
Oui, voilà, cette raison avancée par le ministre, ce n'est pas assez correct, mais quels sont les diplômés qu'on déverse à la société, quelle sorte d'élite qu'on produit pour la société congolaise, c'est une élite qui a obtenu le diplôme par la fraude, par la tricherie, par la complaisance, parce qu'on veut répondre aux besoins électoralistes. Nous contribuons à la destruction du devenir et de l'avenir de ces enfants.
Donc, Serge, vous avez suivi Clément de Lukula, le préfet nous a dit peut-être que le jury était un peu plus large au niveau de la délibération. C'est ce qui expliquerait, d'après lui, ce nombre élevé du taux de réussite.
C'est ainsi que je vous ai dit au début, dans cette fameuse réunion, la commission nationale qui délibère le résultat de l'examen d'État, il n'y a aucune délibération scientifique qui est opérée. Il n'y a aucun examen judicieux et minutieux des résultats. Ce sont plutôt des options politiques. Comment pouvons-nous faire avancer la gouvernance de l'examen d'État si les agissements sont faits sur base des évidences politiques et complaisantes? Il s'agit des apprentissages. Il s'agit de la science. La science est le rendez-vous des hypothèses certifiées sur base des expériences. Mais lorsqu'on mélange la science et la politique, c'est l'humanité qui est mise à danger. C'est depuis le mois de mars qu'il y a eu interruption des apprentissages. Je veux vous dire quelque chose. Ces finalistes vont aller à l'université. Et la plupart d'entre eux, prenons ceux qui sont dans les sciences techniques et dans le mathématiques physique. Ils n'ont pas eu de leçons, par exemple, sur les intégrales. Ils n'ont pas eu de leçons sur le vecteur, par exemple. Mais ceux qui vont aller aux sciences des techniques appliquées ou aux sciences mathématiques purement, comment vont-ils s'en sortir? Comment vont-ils faire? Nous sommes en train de mettre l'humanité à danger. Tout, puisqu'il fallait quand même boucler ou faire atterrir l'année, il fallait dans ces cas, la délibération puisse être la plus rigoureuse que possible. Sinon, à cause de la COVID, le gouvernement congolais, par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, va déverser à la nation des élites qui seront plus dangereuses que ce virus de la COVID-19, parce qu'ils seront, ou elles seront comme élites, incapables de résoudre le problème de la société auquel oui. elles sont appelées à résoudre.
Serge, voilà, vous dites que le taux de réussite qui est annoncé aujourd'hui ne reflète pas la réalité, d'après vous. Le ministre a dit que c'est d'après lui, c'est grâce à la classe télévisée qu'on a eu ce taux de réussite de 6%, cette augmentation. Vous dites non, c'est plutôt grâce à la tricherie, à la fraude, aux implications politiques, etc. Merci beaucoup, Serge, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'ONG Young Men Association for Education et coordonnateur de la campagne École ESA Mombongote. Excellente journée.
Je vous remercie.
Quels sont les facteurs qui ont contribué à l'augmentation du taux de réussite à l'examen d'État édition 2019-2020 pour la ville de Kinshasa? Eh bien, on en parle aujourd'hui dans cette émission. Vous savez, la publication des résultats de l'examen d'État édition 2019-2020 pour Kinshasa a débuté le dimanche 27 septembre. Les scènes de liesse sont perceptibles à travers la ville. Les sifflets, cris de joie, klaxons des voitures, des wéwa, la poudre sur la tête. Les diplômés courent dans tous les sens pour jubiler, manifester leur joie. Le taux de réussite est en hausse de 6% par rapport à l'année passée pour la ville de Kinshasa. Soit des 72%, des 72 à 78%. Alors, quels sont les facteurs qui ont contribué à cette augmentation du taux de réussite? D'après le ministre, la classe télévisée y est pour beaucoup, mais Serge Bondé dit tout à l'heure, nous a dit que la tricherie, la fraude, les implications politiques, voilà. C'est qu'il y a les facteurs qui ont contribué à cette hausse du taux de réussite. Bien, nous allons en savoir plus avec Jacques Chimbalanga. Il est coordonnateur national de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous, CONEPT, RDC. Jacques, bonjour.
Bonjour.
Alors, les résultats de l'examen d'État édition 2019-2020 sont là. La publication a démarré déjà pour la ville de Kinshasa. Les enfants se réjouissent partout à travers la ville. C'est la fête. Alors, on a noté qu'il y a eu une hausse des taux de réussite de 6%, soit de 72 à 78%. D'après vous, quels sont les facteurs qui ont contribué à cette augmentation du taux de réussite?
Eh ben, l'augmentation du taux de réussite... Je crois que c'est un facteur pour nous absolument aléatoire. Aléatoire parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'éléments qui peuvent justifier cette augmentation. Vous savez que nous étions dans une année assez spéciale, une année où pratiquement les programmes de cours n'ont pas été terminés, même quand on a demandé à ce que les élèves reprennent pour un mois encore. Et une année où pratiquement les écoles n'ont pas pu faire très bien les choses et de manière rationnelle. Et on ne peut donc pas attribuer cette augmentation du taux de réussite à des facteurs mesurables, à des facteurs qui peuvent à des choses qui peuvent permettre justement aux écoles de pouvoir dire que non, voilà, nous avons fait ceci pour arriver à tel résultat. Je crois que c'est véritablement aléatoire, à titre vraiment aléatoire, que l'on peut parler de ce taux de réussite. Mais en fait, il faut dire que je crois, mon intime conviction me dit que c'est pratiquement des délibérations. Des délibérations. Alors, quels ont été les critères des délibérations? Jusqu'à quel pourcentage on est descendu pour prendre justement, pour avoir ce taux de réussite? Et vous et nous ne connaissons pas. Seul le ministère et peut-être les coordonnateurs des écoles conventionnées qui ont participé à ces délibérations-là peuvent dire quelque chose. Mais en réalité, tout le monde connaît, tout le monde sait aujourd'hui que c'est vraiment de manière aléatoire. Il n'y a aucun élément mesurable qui peut nous permettre de dire qu'effectivement, évidemment, c'est à cause de ceci que nous avons eu ces résultats-là. Et mais c'est tout le monde qui voit et tout le monde qui essaie d'apprécier.
Bien, nous tentons de joindre le ministre de l'EPST ou le vice-ministre pour en savoir plus. Mais dites-nous, avez-vous une idée sur les critères des délibérations? Vous dites que c'est peut-être au niveau du jury, les jurys étaient un peu plus larges vu le contexte du Covid-19. Et d'après vous, quels peuvent être les critères sur lesquels le jury s'est basé pour donner ses résultats?
Ben, vous savez, comme j'ai dit, c'est une année assez spéciale. Une année spéciale où on se dit bien voilà, la pandémie qui a frappé le pays et le monde n'a épargné personne. C'est peut-être aussi un élément qui a joué, mais c'est vraiment, comme je dis, des éléments non mesurables sur lesquels on pourrait se baser. Mais les véritables critères de délibération sont évidemment les cours, mais il n'y a que nous sommes en dehors de ces gens qui ont participé aux délibérations. Je suis incapable à ce jour de dire quels ont été les critères sur lesquels ils se sont basés pour essayer de faire ces délibérations. Nous constatons aujourd'hui les effets, c'est qu'il y a une augmentation, ils sont seuls. Et donc les personnes capables de nous dire quelque chose là-dessus, ce sont des personnes qui ont participé, notamment tous les directeurs au niveau central à l'inspection, et puis les coordonnateurs des écoles conventionnées, comme ils participent aussi, les associations des parents, certaines associations des parents d'élèves participent aussi aux délibérations. Ils peuvent peut-être nous dire comment ont été faites ces délibérations. Aujourd'hui, nous subissons justement ces résultats-là, mais nous constatons simplement qu'effectivement, aujourd'hui, c'est les critères, la délibération a été un facteur qui a été à la base de l'augmentation du taux de réussite. Donc je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui quelque chose qui a été fait au niveau du ministère qui puisse convaincre la communauté nationale qu'effectivement, grâce à cela, on a eu un taux de réussite élevé.
Ni les plus est-ce que les organisations de la société civile n'ont pas le droit de vérifier ou d'avoir accès aux informations, à ces critères dont vous faites allusion?
Jusque-là, non, ces critères c'est encore imperméable. C'est justement le droit à l'information que nous demandons. Et vous savez, quand les choses se passent de cette manière-là, ça a un impact sur les élèves, et donc la communauté nationale est parfois aussi scandalisée par rapport à cela. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il faut absolument que les critères soient des critères sur lesquels tout le monde connaît, évidemment, que ça se passe de cette manière ici pour aboutir à cela. Donc, à ce jour, nous sommes très limités, véritablement très limités, pour nous prononcer là-dessus. Nous sommes en train de subir une situation. Et donc, voilà, les résultats sont là. Tout le monde voit, il y a eu un taux de réussite élevé, plus de 6% par rapport à l'année passée, et c'est vrai. Mais bon, quels ont été les facteurs qui ont été à la base de cela? On ne peut pas, à ce jour, se prononcer dessus, étant donné que les critères n'ont pas été mis à la disposition du public.
Bien. Mais d'après le ministre de l'EPST, c'est grâce à la classe télévisée, les enfants ont suivi les enseignements à la télévision. Cela les a permis, pendant cette période de confinement, d'être à jour et de bien se préparer à affronter les examens d'État.
Non, mais écoutez, je crois que tout Congolais sérieux comprend que lorsqu'on parle de la classe télévisée, donc de l'enseignement à distance, lorsqu'on voit comment ça fonctionnait, personne ne peut donner une crédibilité à cet argument-là. La première des choses, la plus importante, il faut savoir que l'enseignement à distance, tel que cela a fonctionné chez nous, la fracture numérique. La fracture numérique a fait en sorte que tous les enfants n'ont pas eu accès aux ressources pédagogiques proposées par le ministère. Deux, la question de la desserte en électricité, qui est véritablement un problème. Déjà à Kinshasa et en province, n'en parlons pas. On peut parler de la classe télévisée, mais en fait, combien, par exemple, en province, ont encore des postes télévisés pour permettre à ce que les enfants suivent. La classe télévisée a été une catastrophe sur le plan pédagogique dans notre pays. Donc on ne peut pas prendre ça pour argument et justifier que grâce à cela, nous avons eu aussi des enfants à la maison. Et nous voyons comment c'était organisé. Mais je crois que ça, c'est un argument aujourd'hui farfelu que l'on ne peut pas justement utiliser pour justifier. Ça n'a pas fonctionné comme il faut se le dire. Cela n'a pas fonctionné. La classe télévisée, l'enseignement à distance tel que fait chez nous, a été une catastrophe pédagogique et il faut donc revoir les choses. Donc,
mais Jacques Chimbalanga, les enseignements passés sur la télévision nationale qui est captée presque un peu partout à travers le pays, et ça a permis peut-être à certains élèves
de... Est-ce que vous avez aujourd'hui un instrument de mesure qui peut vous assurer que dans telle école, autant d'élèves ont suivi ces cours-là télévisés? Il n'y a aucun élément. Tel que cela a fonctionné, vous savez, la meilleure manière de faire fonctionner l'enseignement à distance, c'est de le mettre sous le contrôle du maître, sous le contrôle d'un professeur, d'une école, avec sa classe. Tant que ce n'est pas fait de cette manière-là, c'est véritablement un film que l'on montre à la télévision, que chacun peut que l'on peut choisir à tout moment s'il faut suivre ou pas. Mais lorsqu'on a mis ça sous le contrôle d'un maître, là au moins on peut s'assurer que celui-là peut contrôler que tel élève a suivi et qu'il y a eu des exercices qu'il a fait et qu'il peut corriger et faire des échanges avec ses élèves. Non. La classe télévisée, l'enseignement à distance n'a pas fonctionné en réalité. Ce que nous avons vu, c'était des pièces de théâtre que l'on a vu. On ne peut pas considérer ça comme un élément. Ça n'a pas permis à ce qu'on puisse évaluer les élèves. On ne peut pas avoir eu à évaluer les élèves sur la base des classes télévisées qu'on a vu telles que cela a fonctionné. C'était une catastrophe sur le plan pédagogique. Je souhaite même qu'on n'en parle pas. Il faut plutôt remanier la manière de faire les choses. Il faut plutôt remanier la manière de faire les choses et on ne peut pas, si vraiment nous sommes sérieux, dire que c'est grâce à la classe télévisée, à l'enseignement à distance, tel que cela a été donné. Je dis bien tel que cela a été fait, non. Non et non, pas cela en tout cas. Autre chose, mais pas cela.
Bon, il faut peut-être diligenter une enquête que les enquêteurs descendent avec des questionnaires pour poser des questions aux parents, aux élèves, pour arriver à mesurer l'impact de la classe télévisée.
Mais vous savez que la classe télévisée n'a pas été faite que pour les élèves de 6e année et des classes terminales. Ça a été également fait pour les élèves d'autres classes. Mais vous avez des enfants à la maison. Combien de fois vos enfants se sont mis devant la télévision ou la radio? Comment vous les encadriez pour suivre ces éléments-là? C'est ça le vrai problème. Ce que nous sommes en train de dire à propos de la classe télévisée, ou en fait mieux, de l'enseignement à distance. L'enseignement à distance en soi n'est pas une mauvaise chose. C'est l'usage qu'on en fait. Est-ce que tel que cela a fonctionné chez nous, on peut évaluer un élève? Non. Parce que qu'il n'y a personne qui contrôlait comment les élèves accédaient aux ressources pédagogiques. Parce qu'il n'y a personne qui contrôlait les interactions entre les élèves et les enseignants, leurs maîtres, leurs professeurs.
D'accord. Jacques Timbalang, à un instant, on va accueillir un auditeur, Albert Liboté, depuis Kisangani. Bonjour.
Oui, bonjour, Capi Service. Bonjour.
Albert, vous êtes à Kisangani. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux résultats de l'examen d'État à Kinshasa?
Je suis offusqué d'entendre le ministre d'État en train de dire que l'enseignement télévisé avait un impact positif sur les résultats de l'examen d'État session 2020. Dont la publication partielle a eu lieu le dimanche dernier à Kinshasa. Je m'inscris en faux parce que la population, la plupart de ces populations est d'abord rurale. Est-ce que dans nos milieux ruraux, messieurs les journalistes, il y a des télévisions, même ici en ville, messieurs les journalistes, il y a certains coins de la ville qui sont dépourvus de l'énergie électrique. Et nos enfants, nos jeunes enfants finalistes et de basse classe, est-ce que ces derniers ont vraiment une notion, une culture de pouvoir suivre ces enseignements? J'ai dit non. S'il a tenté de chercher des raisons pour pouvoir maintenir sa notoriété, non. Je n'ai pas menti juste à ce niveau-là. J'ai dit que, je le déclare avec force en disant que l'enseignement télévisé avait un impact totalement négatif. Totalement négatif.
Bien. Oui. Mais là-bas, Kisangani, vous captez quand même la télévision nationale, ces enseignements passés sur la télévision nationale. Est-ce qu'à Kisangani, vous n'avez, les enfants n'ont pas pu suivre?
Généralement, sur ça, pour ça, j'étais dit 0,5%. 0,5% des élèves finalistes qui ont eu la chance de pouvoir se mettre au moins une fois ou deux fois devant la télé en train de suivre cet enseignement. Ça n'a pas d'impact. Bien que l'initiative est louable, mais on devait quand même d'abord assainir l'environnement et sensibiliser les élèves dans ce sens-là. Et on pourrait continuer, mais aussi il faut voir dans notre pays, il se pose un grand problème lié à l'électricité et aussi la culture de pouvoir suivre les informations. Il n'est pas dans notre milieu, quoi. Voilà.
Bien, merci Albert Liboté de Kisangani. Isidore, vous êtes à Goma. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Isidore.
Oui, ce que je peux dire là-bas, je ne suis pas vraiment d'avis avec le ministre. Ce qu'il a dit, ça, c'est faux et archi-faux. Est-ce qu'il avait vraiment fait une descente sur intérêt dans toutes les villes où il y a la radio RTNC pour voir que et les maisons qui se trouvent là-bas, les enfants en train de suivre cet enseignement? Par exemple, à Goma, il n'y a pas d'électricité. Moi, je connais tout Goma. Mugunga, là-bas, dans la commune de Karisimbi, il n'y a pas d'électricité. Goma, c'est une ville, mais il n'y a pas d'électricité. Ce n'est pas tout le monde qui suit la RTNC. Là, c'est faux et archi-faux. Il pourrait peut-être se taire et garder ça pour lui. Il a seulement jeté des diplômes et ceux qui ont eu des chances ont ramassé ça. Mais il ne peut pas. La plupart des élèves qui ont obtenu des diplômes cette année, ils n'ont pas de mentir à tête. Il y a ceux qui ne sont pas capables de défendre ces diplômes là-bas. Moi, je le confirme. Il y a d'autres qui ont eu ces diplômes en carton, mais ils ne les méritent même pas. Donc, il y a eu beaucoup de diplômes, mais peu de diplômés cette année.
Bien, merci à Isidore de Goma. Quels sont les facteurs qui ont contribué à l'augmentation du taux de réussite à l'examen d'État? On en parle aujourd'hui. Dans Okapi Service, des questions et préoccupations, écrivez-nous à service@radiookapi.net. Okapi. Bien, Jacques Timbalanga, vous êtes coordonnateur national de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous. Vous avez suivi les avis et préoccupations des auditeurs. À vous la parole.
Eh bien, je crois que les avis des auditeurs réconfortent un peu notre position, la position que nous avons évoquée tout à l'heure. Quand on veut faire de l'enseignement à distance, ça veut dire classe télévisée ou quoi, ou que sais-je encore, parce qu'il y a beaucoup d'approches en ce qui concerne l'enseignement à distance. Il faut s'assurer, si on veut que cela ait des résultats, qu'il faut s'assurer que vous vous êtes doté de moyens de faire le suivi et qu'il y a au moins un encadreur, un maître qui suit ceux qui suivent cet enseignement à distance. les auditeurs vous l'ont très bien dit, et ce qu'ils ont dit, ça traduit la fracture en ce qui concerne et le numérique et justement la desserte en électricité. Quand vous avez beaucoup d'endroits dans ce pays qui souffrent pour accéder à l'électricité et que vous lancez l'enseignement à distance dans des supports ou des outils qui demandent à ce qu'on utilise l'électricité, il faut savoir que si vous avez 100% de personnes qui doivent suivre cela, eh bien, vous n'aurez pas les 100%, peut-être même que vous aurez moins de 50% par rapport à notre pays. La même chose pour l'utilisation, par exemple, des ressources en ligne. C'est ce qui a été fait chez nous, et bien entendu, pas seulement pour les finalistes d'ailleurs, mais également pour d'autres niveaux d'études. C'est comme ça que nous continuons à dire. Nous ne sommes donc pas convaincus que l'enseignement à distance, je dis bien tel que cela a été fait dans notre pays, ait contribué à faire en sorte que nous ayons le taux de réussite que nous avons aujourd'hui. Ça veut dire un taux de réussite qui a augmenté. Je crois que le seul argument valable que l'on puisse dire aujourd'hui, que l'on peut évoquer, c'est peut-être que les critères de délibération ont été un peu revus à la baisse pour repêcher encore les plus faibles. Et l'argument, c'est que nous avons traversé une période assez tumultueuse avec la pandémie. C'est peut-être cela qu'on se le dise. C'est peut-être cela qu'on se le dise. Mais en fait, aujourd'hui, dire que nous avons un taux de réussite élevé grâce notamment à l'utilisation des vertus ou des approches d'enseignement à distance, notamment la classe télévisée et autres, je crois que c'est un argument peu convaincant.
Jacques Timbalanga, ce qui est vrai à Kinshasa, par exemple, il y a plus ou moins de l'électricité dans bon nombre des quartiers et les enfants suivent la télévision.
Les enfants suivent la télévision, c'est ce que je vous dis. Est-ce que qui peut mesurer combien d'enfants dans chaque école et pour chaque cours ont suivi cela? Qui peut? Qui peut aujourd'hui le dire? Vous savez, tant que l'enseignement à distance n'est pas mis sous la coupole de quelqu'un qui surveille, de quelqu'un qui suit, donc d'un maître, quand un maître sait que j'ai 50 élèves, de ces 50 élèves, nous aurons le cours d'histoire et moi, je me mets à leur transférer des ressources pédagogiques à distance. Et ils peuvent interagir avec moi. Et je peux donc évaluer cela après. Là, on peut dire que nous utilisions à bon escient les vertus, les approches d'enseignement à distance. Cela n'a pas été fait chez nous. C'est des cours que l'on donne à la télévision. On ne s'assure pas combien d'élèves suivent. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un service de suivi qui peut rendre compte de l'enseignement à distance, de ce qu'a donné l'enseignement à distance? Il n'y a pas eu un service qu'on a mis sur pied pour cela. Quel a été le résultat de l'enseignement à distance? Quel est le service du ministère aujourd'hui qui peut nous renseigner sur ce que cela a donné sur le plan pédagogique? Pour aujourd'hui dire qu'effectivement, sur la base des résultats d'enquête menés par les services de suivi et évaluation de ces ministères, du ministère en ce qui concerne l'enseignement à distance, voilà ce que nous avons eu comme résultat. Et c'est cela qui peut expliquer qu'il y ait un impact sur les résultats d'apprentissage et donc les résultats des élèves des classes terminales. Aujourd'hui, on nous dit, on n'avance plus des résultats comme ça. C'est toujours des évidences. Quelles sont les évidences qui ont permis de construire cet argumentaire-là? Je crois qu'il n'y en a pas. C'est comme ça que nous disons que c'est véritablement aléatoire, c'est des arguments aléatoires qui ne sont pas assis sur des évidences claires et un processus rigoureusement construit pour arriver au résultat. Je ne pense pas que un scientifique, un pédagogue rompu peut accepter aujourd'hui que l'enseignement à distance tel qu'appliqué aujourd'hui a eu un impact sur les résultats. C'est autre chose que cela.
Bien.
C'est pas quelque chose.
Bien. Jacques Tshimbalanga, je rappelle que vous êtes coordonnateur national de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous, CONEPT RDC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Excellente journée. Bien, fidèles auditeurs, nous marquons une pause, le temps de suivre les informations et on se retrouve dans la deuxième.
Okapi.
Fidèles auditeurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service New Look. Aujourd'hui, nous parlons des facteurs qui ont contribué à l'augmentation du taux de réussite à l'examen d'État édition 2019-2020 dans la ville-province de Kinshasa. On le voit à Kinshasa, les finalistes sont en train de jubiler, de se réjouir, la poudre sur la tête, en train de courir dans tous les sens pour célébrer la réussite. Et les taux de réussite est en hausse des 6%. On va souffler un peu en musique et on se retrouve dans quelques instants.
Oui. Attention, attention, tous les petits enfants, c'est le grand Mopa. Le papa de tous les enfants. Papa top, papa sucre, papa miel, vous apporte la joie à vous les enfants. Allez tout le monde avec moi.
Olé, 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 oh la la, oh la, oh la. Le matin, le pain, olé, une tartine au chocolat. Les petits, les grands enfants, tcha-tcha-wa, la queue, le le. À l'école, sans chantant, un plus un font plus que deux.
Minou, tu es la grande sœur de qui? De Rocky.
Olé, 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 oh la la, oh la, oh la.
Et toi, Rocky, tu es le grand frère de Didi Stone Like. Elvis, diamant bonheur, bisous à Laura.
Olé, 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 oh la la, oh la, oh la.
Glody, Yarita, Ruben.
Olé, 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 oh la la, oh la, oh la.
Bernie et Paola, allez à l'école, tout le monde à l'école. Il n'y aura des cadeaux que pour ceux qui vont bien travailler. Papa Top chante pour les enfants, toutes les filles et tous les garçons.
Olé, 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 oh la la, oh la, oh la.
Au barbecue, papa sucre apporte la joie à la piscine aussi.
Olé, 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 oh la la, oh la, oh la.
Leslie, où est Dan Chaco? Miss Vesquez, Miché, où est Elton?
Olé, 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 oh la la, oh la, oh la.
Stallone, as-tu vu Curtis? As-tu vu Hussein?
Olé, olé,
Déborah,
Porto,
Sharon, Yamari-Louise, Oboulumbu, Falcon, Latoya.
Les petits, les grands enfants, Tchatchoa, la queue, le à l'école, sans chantant, un plus un font plus que deux.
Papa Top vous le demande, tous les enfants, toujours à l'école, bien travailler. Ah, Dicton, je vois que tu es d'accord.
Olé, olé,
Diamant Bonheur, Kevin Keke, Mimi, Cédric, Eric Alain,
olé,
Rubin
olé,
et Diego.
Olé, oh la la, oh la, oh la.
Oui. Ah. Ouais. Ah. Allez, allez, allez les enfants, on y va, tout le monde, tout le monde. Personne ne reste assis.
Olé, olé.
Et bien entendu, les mamans pouvaient danser avec les
en France, pas interdit.
Oh là là, olé olé.
Les papas, vous voulez quoi déjà rentrer? Non, laissez les enfants s'amuser encore un peu. Les filles, invitez vos papas à danser. Un petit ndombolo, le ndombolo cool. Papa sucre, Kololumpeba, papa miel, pour vous les filles, pour vous les garçons. Feu. Dans mon bafoune épaisse, Zozo Petiki, Martine Bouyela, Jean-Paul Walter.
Votre fidélité à Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien, et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent à travers le pays et même dans le monde sur www.radiookapi.net. La publication des résultats de l'examen d'État édition 2019-2020 pour Kinshasa, pour la ville de Kinshasa, a débuté le dimanche 27 septembre. Les scènes de liesse sont perceptibles à travers la ville. Sifflets, cris de joie, klaxons des véhicules, des taxis, motos, la poudre sur la tête et bien les diplômés se réjouissent, ils courent dans tous les sens pour manifester leur joie. Le taux de réussite est en hausse de 6% par rapport à l'année dernière, soit de 72 à 78%. Quels sont les facteurs qui ont contribué à cette augmentation du taux de réussite à l'examen d'État pour la ville de Kinshasa? Nous avons en ligne Jean Bosco Puna, président du réseau national des professeurs et enseignants de français, RENAPEF en sigle. Jean Bosco Puna, bonjour.
Oui, bonjour.
Bien. Vous avez certainement suivi la publication des résultats de l'examen d'État. Les enfants se réjouissent, les familles aussi sont dans la joie. D'après vous, quels sont les facteurs qui ont contribué à l'augmentation du taux de réussite des 6% dont le ministre a parlé?
Bon, je crois que nous l'avions dit en son temps, que en organisant les évaluations certificatives à la va-vite, soit on attribuerait les points de manière aléatoire aux enfants, donc aux apprenants, soit eh bien les élèves allaient véritablement échouer. Eh bien, nous sommes dans la première, dans cette première possibilité, c'est-à-dire que on a attribué de manière aléatoire des points aux élèves, parce que rien ne peut justifier les 6% dont parle l'autorité. Ce n'est pas possible. Ce sont des résultats. Et d'ailleurs, si vous sondez véritablement les élèves sont en train, véritablement, c'est vrai qu'ils se réjouissent, mais d'un autre côté, eh bien, ils sont en train de se moquer de leurs encadreurs. Parce que regardez le constat. Eh bien, l'examen d'État, les élèves qui ont présenté l'examen d'État ont subi un programme d'enseignement inachevé. C'est-à-dire, il y a eu des questionnaires inadaptés parce que les élèves se sont plaints. Soit on n'a pas vu telle matière, telle autre matière, eh bien on ne peut pas comprendre, on ne peut pas justifier ce que nous avons aujourd'hui sur le terrain. Il y a également cette fraude presque autorisée, parce que les élèves étaient munis de leur téléphone dans les salles de classe. Nous connaissons nous tous l'application WhatsApp, eh bien de ce côté-là, ça a véritablement fonctionné. Et tous les élèves savent qu'ils cotisaient pour que le surveillant soit vraiment, pour qu'ils achètent la conscience des surveillants. Et donc, nous pouvons dire, ce sont des résultats vraiment politisés, ça c'est vraiment de la politique, il n'y a rien de la pédagogie dans ce que nous vivons aujourd'hui, et nous pensons que c'est regrettable. C'est vraiment regrettable parce que lorsque vous ne terminez pas les programmes, lorsque vous avez des surveillants qui sont venus de certains partis politiques, lorsque, eh bien, il y a des matières qui étaient des questions qui étaient déjà composées avant même la COVID, vous comprenez que c'est difficile à pouvoir dire que ces résultats sont objectifs. Lorsque l'on parle, par exemple, de cet enseignement à distance, mais nous tous, nous savons que rien ne peut remplacer le maître parce qu'il n'y avait pas eu interaction entre le maître et l'apprenant. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes dans cette hypothèse que nous avions prédit depuis au niveau du Sénécat que, eh bien, les résultats pourraient être ceux-là. On distribuerait les points aux élèves et les élèves ne sont pas d'accord. Ils se réjouissent, mais ils se moquent de leurs encadreurs et je crois que le ministre ne fait pas du bon travail.
Est-ce qu'on peut dire que il y a eu quand même un mois de récupération que le ministère avait accordé aux écoles? Est-ce que pendant ces temps-là, les écoles n'ont pas pu bien préparer les enfants pour aboutir à ces résultats-là?
Non. Mais nous avons présenté un calendrier avec les experts qui sont dans nos différents syndicats, dans nos différentes structures. Au niveau de, nous avons présenté un calendrier pour dire au ministère qu'il faudrait absolument récupérer les matières qu'on avait perdues. Le ministre a donné un mois. Dans le un mois, on devrait faire les hors sessions. Dans le un mois, on devrait faire les examens, donc l'examen d'État. Mais ce n'est pas possible. Regardez, rien qu'au niveau de hors session, comment a été corrigée la dissertation? Mais c'était chaotique. Et il y a des copies même des dissertations. Je suis en train de me demander si ces points-là avaient été récupérés ou simplement on a pris les E13 venant des écoles. Il y a même des inspecteurs qui nous disaient que les lauréats étaient déjà connus avant même qu'on puisse passer à l'examen d'État. Donc beaucoup de suspicions autour de cet examen. Évidemment, lorsqu'on fonctionne sans associer tous les partenaires, nous arrivons à ce genre de scandale. Cet examen d'État pour cette année, c'est vraiment le diplôme de la COVID. Et c'est vraiment regrettable.
Diplôme de la COVID. On va accueillir les auditeurs, Donatien depuis Ilebo et Arthur de Kananga. Donatien, bonjour. Il n'est plus en ligne. Arthur, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
On vous écoute, Arthur.
Oui, suite à notre thématique, j'avais jugé un peu très intéressant. Et nous avons suivi ce que le ministre a dit, c'est un peu une démagogie. C'est juste une démagogie, car nous avons suivi tout ce qui s'est passé à la radio RTNC et la matière qui a été posée, nous avons été avec les élèves au centre. Aucune matière n'a été posée sur le carnet avec les enfants.
Voilà. Et quelle est la question que vous adressiez à l'invité?
La question est de savoir, est-ce que y a-t-il moyen que les gens qui sont à la composition des examens d'État puissent être au courant de tout ce qu'on est en train de faire à la radio? C'est ça un peu ma question. N'y a-t-il pas moyen qu'on puisse adapter ce système-là?
Merci. Jean Bosco Pouna, vous avez la parole.
Oui, mais il faut absolument une grande réforme par rapport à l'examen d'État. Vous savez que c'est une épreuve d'évaluation certificative la plus prestigieuse dans notre système d'enseignement. On ne peut pas ternir son image. Je crois bien par rapport à la question de l'auditeur, il faut absolument que demain, nous puissions refaire les choses. Nous avons dit que l'inspection générale à l'enseignement est la seule institution habilitée à pouvoir bien organiser. On doit lui laisser cette tâche-là et ne pas la confier au cabinet politique. Aujourd'hui, c'est dommage. Lorsque nous, encadreurs, nous disons que nous sommes satisfaits de ces résultats, Eh bien, j'ai dit ici que les élèves se moquent de nous. C'est devenu une affaire, parce que si on avait suivi les mots que nous, les conseils que nous avions donnés, ça serait vraiment quelque chose qu'on allait rattraper. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un véritable scandale. Il faut absolument une réforme qui puisse nous permettre désormais que les étapes de l'examen d'État soient respectées. La partie hors session, la session proprement dite, mais également le travail qui doit être fait au niveau de l'école. Vous savez qu'au niveau de l'école, c'est là où on détermine les E13. Nous ne savons pas exactement, avec les 4 mois d'inactivité que les élèves ont connus, mais nous ne savons pas quel a été le travail au niveau des écoles. Quels sont les points qu'on a donnés aux élèves pour constituer les E13? Et quelle a été la qualité de l'étape hors session? Parce qu'en français oral, par exemple, on avait demandé aux examinateurs de ne poser qu'une seule question à l'élève. Et donc, c'était un travail bâclé. Tout le monde le sait, généralement, mais seulement les ministres, tu ne le vois pas.
Oui, Jean Bosco, généralement, on pose combien de questions aux élèves pour l'expression à l'état oral?
Non, mais moi, j'ai été plusieurs fois examinateur. C'est-à-dire, vous avez devant vous un apprenant et vous l'évaluez sur le plan de l'oral. Vous avez 2, 3, 4 questions. Vous revenez sur les sous-questions et puis vous passez. Et cette étape-là peut vous prendre près d'une semaine. Mais cette fois-là, mais c'était 2 jours. La correction des dissertations avec des milliers de copies. Vous avez un enseignant qui doit corriger 400 copies. On a vu ça où? Et donc, ça veut dire que le travail a été plus ou moins bâclé. On a racolé les points, mais parce qu'il fallait publier et se faire une part belle. Mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est critique, c'est regrettable, mais il fallait le faire pour que demain nous ayons un autre examen d'État, pas celui qu'on a aujourd'hui.
Jean Bosco, vous avez une idée comment s'est fait la correction? Certains intervenants dans cette émission affirment que le jury était un peu plus large. Je ne sais pas, est-ce que tout se décide au niveau d'un jury? Comment ça se passe exactement?
Bon, au niveau de la correction, vous savez, aujourd'hui, tout est informatisé, mais il y a des points qui doivent venir de l'école, et à ce point, il faut ajouter les points des hors-session, et vous allez prendre maintenant, faire la compilation avec les points qui proviennent de la session proprement dite. Bon, lorsqu'on parle de la largesse, il faut comprendre que la peur, c'était quoi? C'est que nous ayons des échecs en masse, parce que visiblement, les élèves étaient déconnectés. Hein, lorsqu'ils ont repris les enseignements, la première semaine, c'était juste une mise en train. Il n'y avait plus d'enseignement. Et directement, ils sont passés aux examens. Donc, la correction, c'est vrai, au niveau du jury, il y a déjà en temps normal, les choses se passent. C'est un pourcentage, il faut aller descendre un peu vers le bas. Ce n'est pas toujours les 50%. Eh bien, maintenant que c'était une épreuve conjoncturelle, vous comprenez que le jury pouvait être trop large. Et à tous les niveaux, que ce soit le comité lui-même qui devrait gérer tous ces jurys-là, eh bien, on est resté large parce qu'il faudrait absolument que les élèves puissent avoir des points. Et voilà, le diplôme est arrivé. Mais en tant que pédagogue, nous ne sommes pas d'accord avec cette manière de faire parce que nous devons plus viser la formation que donner des diplômes aux apprenants.
Bien, un auditeur est intervenu dans cette émission pour nous dire qu'aujourd'hui, ces enfants qui se registrent, qui ont des diplômes, peu d'entre eux sont capables de défendre leurs diplômes. Il y a beaucoup de taux de réussite, mais la qualité de l'enseignement pose toujours problème.
Oui, mais c'est une évidence. Ces enfants, nous les retrouvons dans nos familles. Ils sont soit chez nous, soit chez les voisins. Donc, nous tous, nous comprenons que vraiment, il faut que les choses changent. C'est vrai que dans le processus éducatif, vous avez la partie qu'on appelle la facilitation, c'est-à-dire l'enseignement, les corps à corps entre le maître et l'enseignant et l'apprenant. Eh bien, cette partie, si elle n'est pas bien assurée, vraiment, ça va poser problème. Mais il y a également la question relative aux enfants qu'on recrute directement en classe de 6e année. Ces classes-là existent. Un enfant qui n'a pas suivi un cursus normal, c'est-à-dire qui n'a pas fait la 7e, la 8e, commencé la première année, l'ancien 3e, 4e, 5e et arrivé en 6e année. Mais ces cas sont légion. Et ce n'est pas moi qui apprendrai cela, que ce soit au ministère ou à l'inspection générale de l'enseignement.
Mais on dit que les autodidactes sont reconnus aussi.
Oui, les autodidactes sont reconnus. Mais ça veut dire quoi? Les autodidactes passent ce qu'on appelle les préliminaires. Et donc, c'est au niveau des préliminaires qu'on se rend compte, effectivement, que celui-ci, c'est un candidat valable. Parce qu'un autodidacte, ça ne signifie pas qu'il n'a aucune connaissance sur le domaine en pédagogie, en sciences, en maths, physique, etc. Un autodidacte peut avoir connu des problèmes, il vient dans le système, mais il doit passer d'abord les préliminaires. Et les préliminaires le jauge. Soit il est retenu pour passer maintenant le circuit normal, c'est-à-dire faire l'examen d'État, soit il est recalé. Donc, malheureusement, même au niveau des préliminaires, eh bien, ce sont des problèmes que nous avons. Donc, il y a beaucoup plus de clientélisme et absolument, nous devons nous mettre autour d'une table pour que l'inspection générale de l'enseignement, d'abord, récupère toutes ses prérogatives et que nous tous, nous puissions travailler pour redorer l'image ternie de l'examen d'État.
Mais beaucoup ont parlé du programme d'enseignement qui était inachevé à cause de la Covid. Pendant plusieurs mois, les enfants étaient à la maison. Mais certaines personnalités du ministère affirment que les écoles avaient déjà terminé une bonne partie du programme. Il ne restait que peut-être 30 jours pour clôturer. Donc les enfants avaient déjà reçu suffisamment des matières pouvant leur permettre d'affronter ces épreuves.
Non, mais c'est faux. C'est un argument qui n'est pas recevable parce que, vous savez, à cette période, lorsque nous arrivons au mois d'avril, j'imagine que les questions à ce niveau-là sont déjà presque bouclées et les inspecteurs interrogent sur base des matières qui sont reprises dans le programme. Or, nous sommes tous surpris par la COVID au mois de mars. Et donc, le ministère ou l'inspection n'avait plus de moyens pour reprendre le travail qui avait été déjà fait. C'est pourquoi vous voyez toutes les plaintes des enfants, ces enfants qui disent que non, ils n'ont pas vu telle ou telle autre matière, mais le contraste, c'est que ces enfants-là ont véritablement réussi avec des scores éloquents. Mais c'est un véritable contraste, un véritable paradoxe.
Bien, nous allons accueillir quelques auditeurs. Au Capi Service, nous parlons aujourd'hui des facteurs qui ont contribué à l'augmentation du taux de réussite à l'examen d'État édition 2020 pour la ville de Kinshasa. Des questions et préoccupations, écrivez-nous à service@radioocapi.net. Au Capi. Frédéric, vous êtes à Colézi. Bonjour.
Bonjour Radio Capi, merci beaucoup, bonjour.
Quelle est votre préoccupation, Frédéric?
Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. J'estime que les rapports ou bien l'allocation qu'a faite Monsieur le ministre, bien sûr il l'a fait parce que c'est lui-même qui l'aurait initié. C'est pourquoi il a applaudi ses projets. Mais en réalité, ce n'est pas un projet qui a abouti à un résultat qui est évidemment escompté. Parce que si nous pouvons aller dans la réalité des choses, la radio, les programmes de la télévision, donc de l'enseignement à la télévision, papa, vous savez que partout d'abord, en RDC, nous avons un problème d'électricité. Nous avons un problème d'électricité et d'abord la grande partie de notre pays est encore dans les stades, donc c'est encore le village qui compose notre pays. Maintenant, êtes-vous sûr que ces ménages là-bas qui ne disposent pas les courants électriques, ils ont eu accès à ces enseignements là-bas qui passaient à chaque fois à la RPNC? Et vous savez aussi que dans le milieu et présentement ici à Colouézi que nous sommes, moi je n'ai même pas vu, si vous pouvez circuler faire le micro-baladeur, même dans le riz, ici chez nous, ici, vous allez voir que les enfants ne savent même pas ce que vous dites là-bas, que non, les enseignements à la télévision. À moins, ce que nous avons reconnu, ce qui s'est passé, ce que vous suivez, nécessairement, c'était au Capi-école. Là, vraiment, quand même, ça fait quelque chose parce que les enfants suivaient, même les parents, ils s'attachaient à des radios et ils suivaient au moins des leçons. Là, quand même, ça fait quelque chose. Mais dire que les programmes de la télévision, l'enseignement à la télévision, ça essaie au moins d'augmenter par rapport au résultat, ce n'est pas du tout vrai. Il fallait encore qu'on essaie de voir s'ils veulent faire ça, il fallait qu'ils voient maintenant dans quelle mesure ils peuvent le faire. En tout cas, si c'est comme ça, nous ne sommes pas encore d'accord de ce que ce qui a été promulgué par Monsieur le ministre. Merci beaucoup.
Merci Frédéric. Merci Frédéric. Maître Edmond, vous êtes de nouveau en ligne. Vous avez la parole.
Merci beaucoup, Monsieur le journaliste. Tel que je le disais ici, que ce que le ministère de l'APSP soutient, il paraît que parce que les programmes de l'enseignement étaient télévisés, voilà pourquoi il y a toute une grande partie donc il y a des réussites en masse. Moi, je crois que c'est une aberration, parce que ça m'engage que moi je constate comme si le ministère de l'APSP a distribué les diplômes. Parce que je l'ai dit tantôt que ici dans notre pays, jusqu'en 2007-2008, pour qu'un élève obtienne même 50% aux exitats, c'était une chose très difficile, contrairement actuellement. Mais comment expliquer un programme qui a été télévisé, où nous avons une population qui n'a pas accès à l'électricité, il y a même certaines personnes qui n'ont même pas vu un appareil téléviseur, et on va soutenir faussement que s'il y a des réussites, c'est parce que le programme a été télévisé. Ça, c'est une aberration, c'est pour justifier la fraude, pour justifier la distribution des diplômes. Moi, je crois que le problème du rabais de l'éducation dans notre pays incombe à l'EPST. Moi, je suis assistant à l'université. Et lorsque nous allons recevoir ces élèves-là, qui ont eu de 98%, qui ont eu de 80%, qui ont eu de 70%, mais il faut voir ces élèves qui distinguent au niveau du secondaire, au niveau du bac. En tout cas, c'est déplorable. Donc, le système éducatif au niveau du primaire, secondaire, doit être revu. Donc, parce que le ministère de l'EPST, apparemment, en tout cas, les choses ne sont plus comme auparavant. On distribue le diplôme à n'importe qui. Et ces enfants, lorsqu'ils viennent chez nous à l'enseignement supérieur, ces enfants ne sont même pas en mesure de composer une petite lettre avec les composantes d'une dissertation. En tout cas, c'est une chose déplorable, vraiment.
Bien, merci, Maître Edmond de Mbandaka. Fariel, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, c'est jeudi.
Quelle est votre préoccupation, Fariel?
Oui, monsieur Jody, particulièrement, je suis en train de m'inscrire à fond par rapport à ce que le ministre vient d'affirmer comme résultat. Parce que pendant le confinement, monsieur Jody, nous avions animé aussi une émission avec vous sur cette question. Les enfants ne suivaient les cours à la télévision et la majorité même de la population n'a pas l'électricité. C'est pourquoi je m'inscris à fond par rapport à ce que le ministre a affirmé. J'ai seulement des petites questions. Sur quelle statistique le ministre se fonde pour prouver ses résultats? Et deuxième question, n'est-ce pas seulement pour que le ministre... Donc, le ministre est en train de défendre comment l'année a été sauvée. C'est ça, c'est quand même ma préoccupation, M. Jody.
Bien, merci Fariel de Kananga. Sur quels critères le ministre affirme que la classe télévisée a contribué à cette augmentation du taux de réussite? Jean Bosco Pouna, vous avez la parole.
Oui, je crois que vous voyez, tous les auditeurs sont conscients, parce qu'il faudrait qu'on arrive à ce niveau de conscience. Tout le monde est conscient que ce qui est donné ne favorise pas la formation que nous devrons donner aux élèves. Eh bien, la classe télévisée, c'est vrai que c'était un moyen que le ministère a utilisé, bien sûr avec des partenaires, parce qu'on a mis des moyens. C'était juste pour renforcer, pour essayer d'occuper les élèves pendant cette période. Et nous l'avions dit, nous continuons à le redire, que la classe télévisée, l'enseignement à distance, ne peut en aucun cas remplacer les maîtres dans un pays comme le nôtre, où nous n'avons pas, où la population n'a pas accès à l'énergie. Et donc, il faut simplement dire que ce sont des effets perturbateurs qui arrivent dans le système. Il faut absolument que nous puissions être conscients pour que demain, les choses puissent changer. Vous savez, il y a un écrivain français qui dit, et je crois que c'est Alain, l'enfant vous sera reconnaissant de l'avoir forcé, il vous méprisera de l'avoir flatté. En fait, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est le moindre effort, c'est la facilité. Et aussi, nous l'avions dit, que l'examen d'État est devenu une affaire. Parce que le ministère tenait coûte que coûte que cette épreuve puisse être organisée. Vous savez, à Kinshasa, c'est 80 000 francs congolais que chaque parent devrait débourser. Et au-delà de ça, certaines écoles ont payé plus. Donc vous comprenez qu'on a escamoté, on a occulté l'aspect pédagogique qui est un aspect formatif au profit des affaires. Donc aucun partenaire de notre système n'est d'accord avec ce qui venait de se faire. Et nous avons vraiment des présomptions graves pour l'avenir de ces diplômés aujourd'hui. Parce que vous savez, demain, après-demain, ils doivent aller à l'université. Vous venez de suivre un des éminents professeurs qui venait de parler. Demain, après-demain, ils doivent aller à l'université. Eh bien, on va jauger véritablement le niveau de ces élèves. Je crois que c'est une véritable remise en question que nous devons faire. En tout cas, cette épreuve pour cette année, ça a été plus chaotique que tout ce que nous avons connu autrefois.
Bien, Jean Bosco, ça, ce n'est que on a reçu que les résultats partiels pour la ville province de Kinshasa. Attendons voir comment ça va se passer avec les autres provinces.
Mais ne vous en faites pas, il ne faut pas influencer le ministère, parce que tout ce qui est en train d'être fait n'est pas objectif. Or, la pédagogie repose sur l'objectivité. Si vous nous influençons aujourd'hui, eh bien, vous allez voir des échecs en cascade lorsqu'on va proclamer pour les provinces, parce qu'en ce moment, on va se dire, non, on recule un tout petit peu. Donc, il n'y a aucune objectivité dans le travail qui a été fait. Et je crois que même pour les provinces, ça sera le même rythme. Donc, on va donner des diplômes aux élèves. Ils ne seront pas en mesure de pouvoir les défendre et ils ne seront pas en mesure de pouvoir trouver de l'emploi à partir de ces diplômes. Je crois que c'est une tache d'huile à ces enfants qui ont déboursé beaucoup d'argent par rapport à cette évaluation.
Mais il semble que au niveau des écoles aussi, il y a un problème. Les écoles n'aident pas tellement les enfants parce que chaque école tient à sa réputation. On se bat pour faire 100% des résultats. Alors les préfets et les responsables de certaines écoles n'hésitent pas à mettre des moyens.
Oui, mais bien sûr. Mais le phénomène 100%, il est là. Mais il y a un gestionnaire de ce ministère. Le pouvoir organisateur, il est là. Et il sait ce qu'on appelle le phénomène 100%. Parce que ce sont des inspecteurs qui entrent en collusion avec les promoteurs d'école, avec les chefs d'école, pour pouvoir travailler, trafiquer tous ces points. Donc je crois que le régulateur, c'est celui qui doit mettre de l'ordre. Mais dès lors qu'on ne met pas de l'ordre, il ne faut pas oublier que dans notre système, nous avons un véritable problème. Le numéro un, le ministre des Tutelles est lui-même promoteur d'école. Et lorsque vous allez, par exemple, en province, le ministre provincial est lui-même promoteur d'école. Ils ont beaucoup d'écoles. Et donc, ils sont jugés partis. Partant de cela, eh bien, on ne peut favoriser que la fraude. Parce que les enfants, le niveau qu'ils ont par rapport au pourcentage qui est donné, il ne faut pas dire que c'est tous les enfants. Mais nous prenons dans leur majorité, en tout cas, vous allez vous rendre compte qu'il y a un véritable contraste entre le niveau de l'élève et le diplôme qui lui est attribué. Et là, tous les parents, tous les partenaires peuvent le remarquer. Les enseignants eux-mêmes, ils participent à ce phénomène de mercenaires. Ils travaillent dans un laboratoire pour donner des points aux élèves. Dès lors que tous les enfants avaient des téléphones au niveau des centres et que les surveillants n'étaient que des noms, mais qu'est-ce que vous voulez? Ils pouvaient avoir des réponses venant d'ailleurs, mais des réponses qui ne viennent pas des enfants eux-mêmes. C'est un véritable problème.
Donc on peut dire que pour cette édition, WhatsApp et Facebook ont été mis à contribution pour favoriser la tricherie.
Mise à contribution à grande échelle. Tous les surveillants, nous avons fait l'évaluation, nous avons rappelé les quelques surveillants, et même ceux qui ont corrigé la dissertation, on vous dit que vraiment c'était aléatoire, et les gens s'étonnaient même que c'est la première fois que l'examen d'État s'est passé dans ces conditions. Donc le ministre est véritablement... n'est pas à sa place.
On va accueillir Elie de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au taux de réussite à l'examen d'État édition 2020 pour la ville de Kinshasa?
Oui, à Kinshasa, moi précisément à la commune de Mungafula, j'ai réussi le témoignage de quelques étudiants, quelques élèves, disons,
oui.
Qui ont passé leurs épreuves étaient en train de dire que l'épreuve était vraiment facile. Donc, selon mes informations, nous avons reçu un examen d'État qui n'était pas basé sur la matière de sixième. Donc, le gouvernement a été obligé de poser un examen qui était au niveau de l'apprentissage de l'étudiant. Donc, ce qui fait que je crois que par rapport à l'étude en ligne ou télévisée, ça n'a pas vraiment bien apporté comme le ministère est en train de le dire. Donc, si ça avait bien apporté, je crois que l'examen serait au niveau sixième donc au niveau 6e tel que ça a toujours été.
Donc, Élie, vous dites que certains élèves vous ont rapporté que l'examen était très facile.
Oui, c'était un peu dilué, c'était la matière de 5e, de 4e. Donc, c'était pas des choses un peu trop difficiles. Par exemple, en maths physique, il n'y a pas eu beaucoup d'intégrales. Donc, c'était des choses un peu terre à terre, les limites, les dérivés, des choses un peu qui pouvaient passer facilement.
Bien, merci. Jean Bosco Pouna, qu'est-ce que vous pouvez dire à Élie par rapport à ce qu'il vient d'affirmer?
Croire à cet auditeur, à Élie, je ne peux pas croire, parce que sinon, ça serait niveler cet examen vers les bas, et ça serait encore plus dangereux. Il faut dire ici que, déjà au deuxième semestre, eh bien, les inspecteurs se préparent pour composer l'examen d'État. L'examen d'État, c'est toute une machine. Donc, déjà, avant le confinement, l'examen d'État, les premières propositions étaient déjà là. Et je crois que ce sont les mêmes propositions qui étaient confirmées. Mais maintenant, lorsqu'on arrive, comme on l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on arrive au niveau du centre et que l'on peut travailler en collaboration avec des professeurs qui sont loin et qu'on peut vous envoyer des réponses, eh bien, vous allez simplement remplir. Hein. Il faut savoir que ce sont des QCM, des questions à choix multiples. Donc les élèves, ils choisissent et puis ils ont des réponses. Il faut simplement dire qu'on ne peut pas niveler cet examen vers les bas. Les questions étaient déjà composées et que je sache, on n'a pas refait d'autres questions. Ici, nous assistons effectivement aux pratiques de fraude et de tricherie qu'on a remarquées au niveau de centre. Et tous les élèves sont bel et bien informés parce qu'ils ont participé à cette fraude.
Bien, les élèves ont participé à cette fraude. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On se retrouve dans cette situation. Le ministre affirme que c'est grâce à la classe télévisée. D'autres voix s'élèvent pour dire non, il y a eu plutôt la tricherie, la fraude. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau, Jean Bosco Pouna?
Bon, à ce niveau, je crois que il faut une prise de conscience de tous les partenaires, en commençant par les parents. Les parents ne doivent pas continuer à céder aux caprices des enfants qui viennent, qui demandent de l'argent pour corrompre, carrément, c'est le verbe qu'il faut utiliser, corrompre les surveillants, de l'argent à donner aux écoles. Il faut que les parents soient un peu plus exigeants parce que nous avons besoin que les enfants soient très bien formés. Mais il faut dire également en direction des écoles que le travail tel qu'il s'est fait, eh bien, c'est un mauvais travail. On ne peut pas comprendre qu'une école s'organise organise, je veux dire, un laboratoire pour aider les élèves qui sont dans la salle d'examen. Mais au niveau des enseignants eux-mêmes, je crois que c'est une véritable honte qu'un enseignant se livre à ce genre de pratiques. Et à l'inspection générale de l'enseignement, il faut absolument que ce corps d'élite puisse prendre ses responsabilités, parce que lorsque l'examen d'État est mal présenté, eh bien, ce n'est pas les cabinets. Les cabinets, demain, ils partiront. Mais c'est plus l'inspection générale de l'enseignement qui est au banc des accusés, hein, qui n'a pas su peser de son poids pour organiser une véritable évaluation. Il faut que toutes ces institutions, toutes ces structures soient mises en cause, soient repensées. Il faut des réformes pour que nous ayons l'examen d'État que nous méritons pour notre jeunesse.
Bien, on va accueillir un autre auditeur, Albert Mwananga de Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, et bonjour à notre invité.
Quelle est votre préoccupation, Albert?
Oui, vraiment, je suis intéressé par ce sujet, vraiment. Je suis à Kananga présentement. Comme j'ai laissé sur le commentaire que, oui, l'enseignement à distance ici dans notre province, je pense qu'avec le projet Accélère bientôt, nous avons vraiment une approche là, enseignement interactif par la radio. Donc, on vient de commencer ici à Kananga, je pense mieux que la sensibilisation, en train de sensibiliser les parents, tous les parents à ouvrir les postes récepteurs à la radio télé 101. Hein. Mais nous avons constaté quelque chose, selon les affirmations de notre ministre Keleto avec la RTNC et les parents suivaient, mais sans en fait, sensibiliser les parents, aussi conscientiser les familles à ouvrir le poste récepteur pour que les enfants suivent les missions. Vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment un peu complexe. C'est
faire certaines affirmations. Oui, avec le projet Accélère, bien sûr, on a constaté que beaucoup de parents, et certains parents n'ont pas de poste récepteur aussi, on est allé dans des maisons par ménage, en fait, pour sensibiliser. Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer de mettre beaucoup, beaucoup de moyens, aussi beaucoup d'efforts pour y arriver.
Bien, merci. Merci, oui. Merci beaucoup d'avoir appelé. Alors, vous avez la parole, Monsieur Jean Bosco Pouna. Est-ce qu'on peut dire que si on a, on organise par exemple des programmes, des classes télévisées interactives, est-ce que ça peut marcher parce qu'il y a ce besoin-là de parler avec que l'enseignant puisse échanger avec les élèves. Si on instaurait cette classe télévisée ou la classe par radio interactive, ça peut aider les élèves à assimiler les matières.
Bien, mais toutes ces méthodes ne sont pas mauvaises. Nous disons qu'en pédagogie, eh bien, il faut faire la conjugaison des méthodes pour atteindre les objectifs escomptés. C'est-à-dire que si nous avons des classes télévisées interactives, et même ceux qui avaient été faits, nous disons pas que tout a été mauvais, mais déjà, regardez, il y a des enseignants, il y a des professeurs qui sont revenus sur les mêmes leçons, vous comprenez? Mais prenons la classe interactive. Nous avons combien d'élèves, notamment ces élèves de sixième année. Mais c'est un programme qui est difficile à pouvoir réaliser et avec un résultat. Vous comprenez? Donc, dans le sens de pouvoir encadrer, renforcer les capacités de nos élèves, nous disons oui. Mais il est difficile et même hors de question de croire que les classes télévisées peuvent avoir un impact déterminant sur la formation des élèves. Parce que déjà, lorsque nous suivons notre ami de Kananga qui venait de parler, eh bien, Kananga, nous sommes dans une ville. Que dire de tous les territoires? Parce que les élèves se retrouvent partout. Hein? Pour cette fois, il y a eu des milliers d'élèves qui ont présenté l'examen. Et donc, même si nous avons ces classes interactives, ça ne va pas résoudre les problèmes, tout en soutenant, évidemment, que ces classes-là puissent exister pour les quelques personnes qui pouvaient suivre. Mais pour le reste des élèves, ils doivent être dans les salles de classe. Et comme nous sommes en contexte de gratuité, il est important que maintenant qu'on songe à pouvoir aménager les infrastructures pour absorber tous les flux que nous allons connaître pour la deuxième expérience de la gratuité. Et là, je crois que le gouvernement doit faire son travail.
Bien, on va accueillir Claude depuis Goma. Bonjour.
Oui, bonjour. C'est Claude depuis Goma.
Oui, Claude. Bonjour. Bonjour, bienvenue Claude de Goma. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au sujet du jour?
L'éducation par télévision ou par radio, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que dans les pays développés, les gens ne partent plus à l'école. Les gens sont sur la télé ou sur Internet en train de suivre les cours. Et il les suit correctement. Mais chez nous, en RDC, je suis convaincu que la télé, l'éducation sur la télévision n'a rien à jeter sur le pourcentage qu'on a trouvé aujourd'hui dans les exécutants. Donc, j'ai suggéré à l'État congolais de bien recadrer ces histoires, parce que c'est une initiative louable. Partout dans le monde, on le fait. C'est une initiative louable, mais vu le problème social que traverse notre pays, beaucoup de gens n'ont pas accès à l'électricité pour suivre la radio. Beaucoup de gens n'ont pas l'accès même à la radio à cause de l'insécurité, comme chez nous à Goma, aux environs. Les gens ne peuvent pas suivre la radio parce qu'ils crépitent partout. Mais dans d'autres coins comme Kinshasa, c'est facile de suivre. Donc, je pense bien que avec cette méthode que le ministre a initiée, c'est une bonne méthode, mais qui demande beaucoup à faire.
Bien, merci Claude de Goma. Junior, vous êtes à Kisangani. Bonjour.
Oui, bonjour Jody.
Quelle est votre préoccupation par rapport au taux de réussite en qui est en hausse à Kinshasa par rapport à l'année dernière? Aujourd'hui, on parle des 6% de taux de réussite à l'examen d'État édition 2020. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus?
Ok, c'est d'abord à saluer cette initiative de la nouvelle technologie
parce que nous, en tant que pédagogues, nous saluons parce que nous voulons à ce qu'il y ait de cette méthode de technique pédagogique qui consiste à ce qu'on puisse suivre l'enseignement à distance. Nous saluons d'abord, mais ce que nous déplorons dans notre contrat ici, précisément à Tiramani, ici nous avons un sérieux problème de courant, d'électricité, parce que beaucoup de populations n'ont pas accès à l'électricité. Il y a de l'étage un peu partout, et cela ne donne pas l'occasion à ce que tous les enfants puissent suivre normalement l'enseignement, comme se donne ici, ça et là, ici à l'RDC. Alors, j'aimerais à ce que le gouvernement ou soit le secteur-là de l'éducation, qu'on puisse un peu de mettre du sérieux en fait que tous les enfants puissent avoir l'accès à cet enseignement qui se passe au niveau de la moyenne technologique, technique-pédagogique. Donc nous allons cette initiative vraiment au déjà peur. Je suis Julien Bosco sur le coup de Saranie.
Bien, merci. Jean Bosco Pouna, vous avez la parole.
Oui, il y a les camarades Claude, c'est Claude qui a parlé de l'enseignement à distance qui pourrait remplacer l'école. Je crois que même là où la technologie est très avancée, eh bien, jusqu'à aujourd'hui, rien ne remplace l'école. L'école est bel et bien là. J'ai parlé de la conjugaison des méthodes. Ce sont des auxiliaires pédagogiques, des moyens pédagogiques que nous avons pour pouvoir tenir les classes, pour pouvoir conduire les élèves. Vous savez, on conduit les élèves au beau, on les conduit au bien et on les conduit au vrai. Au vrai, c'est-à-dire ce qui est enseigné doit être vérifiable, doit être objectif. Hein? Ou bien, il faut apprendre à l'élève les valeurs morales. Il n'y a que le maître qui est devant qui peut lui dire et qui peut communiquer cela. Mais ou bien, il faut que l'enfant comprenne qu'il n'apprend pas pour lui-même, il apprend pour la société. Donc, c'est une formation intégrale que nous donnons aux élèves, que vous êtes devant lui. Et donc, rien ne peut le remplacer. Mais nous disons que ces classes-là, il a parlé de je crois qu'il voulait beaucoup plus parler de la formation qualifiante, où quelqu'un peut suivre des cours en ligne pendant 3 mois. Mais l'élève commence l'école primaire. D'abord, il commence l'enseignement préscolaire, il a 3 ans, il prend les primaires, il a 6 ans, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui l'enseignement de base jusqu'en 7e année. Oui. Quand vous prenez l'ex-secondaire, vous avez 6 ans, donc ça lui fait plus ou moins, je dirais 6, 10, 12, 15 ans de formation. Et donc, les 15 ans de formation, c'est de la fondation qu'on bâtit. Donc, on ne peut pas les remplacer par un enseignement à distance, un enseignement télévisé. Ce sont des moyens que nous avons qui puissent nous permettre de pouvoir renforcer l'enfant, parce que l'apprenant a besoin d'être renforcé partout. Et surtout que la technologie moderne est là, il faut bien l'utiliser. Mais il est hors de question aujourd'hui que nous puissions nous dire qu'on peut se passer de l'enseignant. Ça, je crois que ce n'est pas encore acceptable chez nous, parce que nous n'avons pas tous les moyens qu'il faut d'ailleurs. Vous comprenez, les camarades continuent à se plaindre par rapport à l'énergie. Eh bien, ce problème n'est pas encore résolu. Et puis, dans les familles, vous n'allez pas trouver partout la radio, les supports qui permettent que les enfants puissent suivre de manière assidue ces différentes leçons. Et puis, il y a toute une méthodologie que l'on met en place pour cet enseignement à distance. Que je sache, cette méthodologie-là n'avait pas été mise en place. Donc, autant de défis que nous avons pour arriver à cette technologie. Mais alors, parce que nous voulons continuer à former les élèves à l'école, avec un maître, là on parle du triangle pédagogique, vous avez l'élève, vous avez le maître, vous avez la matière. Et donc, si le triangle pédagogique n'est pas respecté, nous ne faisons rien. Nous continuons à dire au ministère, nous continuons à dire à l'inspection générale de l'enseignement, le travail qui est fait aujourd'hui au niveau de l'évaluation n'est pas bon. Que ce soit au niveau des classes, avec les examens continus, les travaux continus au niveau des classes, que ce soit au niveau des examens certificatifs, donc de l'évaluation certificative, toutes ces étapes-là ne sont pas aujourd'hui respectées, ne respectent pas les normes pédagogiques. Il faut absolument avoir le courage de le reconnaître et de repenser.
Jean Bosco, Edmond Bokolo de Mbandaka nous a dit que les enfants qui arrivent à l'université ont beaucoup de lacunes, et ne savent ni lire ni écrire, là, pour la plupart, du moins. Est-ce qu'on peut dire qu'il est important aujourd'hui d'instaurer des classes préparatoires obligatoires au niveau des universités et instituts supérieurs?
Bon, mais il faut faire un recul. Lorsque nous faisons un recul, lorsque les choses se passaient encore normalement, c'est-à-dire que l'État mettait des moyens pour que l'enseignant puisse véritablement faire son travail, eh bien, on ne se plaignait pas. Parce que ce soit à l'université, l'enseignement qui est donné à l'université, mais il est au rabais. Autant les professeurs d'université récupèrent nos enfants qui accusent beaucoup de lacunes, autant les professeurs d'université ne mettent pas tout son savoir-faire pour véritablement donner une formation, je dirais, de qualité aux étudiants. Vous n'allez pas dire que l'université aujourd'hui est épargnée, que non, parce que même là, ce sont les mêmes problèmes que nous avons. Vous comprenez comment prenez cette histoire de Along Guinaye. Donc, tous les mémoires passent. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la société est en crise. Mais lorsque la société éducative, lorsque l'enseignement est en crise, ça devient grave et les gens doivent se lever. Professeurs d'université, professeurs au niveau de l'EPST, inspecteurs, parents, nous tous, même élèves, étudiants, nous ne devons pas être contents des diplômes qu'on donne à nos enfants parce que nous tous, nous savons que ce sont les diplômes qui ne seront jamais défaits. Il faut une remise en cause pour que nous ayons l'école tant souhaitée.
Bien, Jean Bosco Pouna, président du Réseau national des professeurs et enseignants de français. Je rappelle que vous êtes aussi coordonnateur du CINECAT, les syndicats des enseignants des écoles conventionnées catholiques. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
À la prochaine, merci.
Au Capi Service.
Au Capi, Radio Capi.
Le conseil du jour.
Parler en public vous paralyse. Pourtant, en appliquant quelques conseils simples, vous pourriez bien vous surprendre vous-même et bien entendu vos interlocuteurs. Thérèse Kankou, vous avez la parole.
Quand vous êtes en conscience chez vous ou à dîner chez des amis, vous êtes sans le savoir un excellent orateur. C'est normal, vous êtes vous-même, vous ne subissez pas le stress de l'exercice de la prise de parole formelle. Observez-vous dans ces moments-là, vous racontez des histoires pour transmettre une idée, faire passer un message. Pour parler en public, faites les tri dans vos idées. Tout ne peut pas être dit. C'est l'écueil principal de la prise de parole, vouloir trop en dire, vouloir tout dire. Notez vos idées sur une feuille de papier. Quand vous en avez trouvé une dizaine, soyez sévère avec vous-même et ayez-en 7 sur 10. Seules les 3 idées qui survivent sont à garder et formeront les squelettes de votre intervention. Une prise de parole en public, c'est le contraire d'une rédaction ou d'une dissertation. On ne vous demande pas de planter les décors, de faire un plan, de développer une première, une deuxième, puis une troisième partie, puis de faire une conclusion. Non. À l'oral, il faut faire passer un message, une information, puis une autre, et pour cela, utilisez des histoires, des exemples, des chiffres marquants. La clé de la prise de parole en public, c'est de trouver la bonne histoire, la bonne anecdote, le bon exemple pour faire passer votre message. Pour être efficace, il faut que votre histoire soit proche des gens à qui vous parlez, proche dans le temps, c'est-à-dire récente ou d'actualité, proche dans l'espace, c'est-à-dire qu'elle se passe près de vous ou dans un environnement proche de vos orateurs, enfin proche émotionnellement, c'est-à-dire qu'elle doit mettre en scène des personnes pour lesquelles vous ressentez de l'intérêt ou de l'affection. Enfin, lors d'une prise de parole en public, il ne faut pas hésiter à répéter plusieurs fois les mêmes choses, même si c'est différemment. Bis repetita placent, disaient les latins, les choses répétées plaisent. C'est en répétant là où les mêmes idées et les mêmes messages sous plusieurs formes différentes que vous obtiendrez les meilleurs résultats, marquerez les esprits de vos auditeurs.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève le magazine au Capi Service de ces jours. Nous avons parlé des facteurs qui ont contribué à l'augmentation du taux de réussite à l'examen d'État édition 2020 dans la ville de Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Paul Badianyama a été à la mise en onde. Tati Mapoukou a assuré la réalisation. Marcel Ngombo à la coordination. Au micro, Jody Daniel Kachama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine. partie de l'émission au Capi Service New Look. Restez avec nous.